et droit criminel, Mast Avocat est là pour vous.
Marceau le matin.
6h27 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là, on est avec vous jusqu'à 10h. Mon nom c'est Marceau, son nom lui c'est Jeff Fortin, Max Larouche qui est là, qui est à la circulation, aux nouvelles et aux sports. Ça avait des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Max?
Pour l'instant, c'est assez beau. Là. Il y a l'accès aux pompiers à la porte où il y a déjà un petit ralentissement. Puis je vous rappelle aussi là, cette fermeture un peu weird de 73, la sortie. Fait qu'Henri IV, en fait, sud vers Louis Riel. C'est sorti en raison de. C'est fermé en raison d'une accumulation d'eau.
Merci beaucoup. Les news.
Les news. 102.1.
Ça fait 100 grammes maintenant, Max.
Ah ben, ouais. Là, je commence quand, là?
Un peu, on va l'écouter pour la première fois ensemble.
Non, mais
là... Penses-tu faut que j'aille commencer, là?
Non.
On a donc bien amélioré notre show.
Ah oui.
D'après moi, je suis posé être en train de faire mes news.
Ouais. Max, au news.
Comme au Fogial. Le SPVQ qui a procédé hier soir à l'arrestation d'un homme de 37 ans pour avoir déchargé une arme à feu, agression armée et harcèlement criminel. Un appel qui a été logé au 911 vers 20h à l'effet qu'un résident de la rue Boucher, secteur Loretteville, se serait fait tirer sur son domicile avec une possible arme à plomb. Les policiers qui sont rapidement présentés sur les lieux ont pu constater qu'il n'y avait heureusement pas de blessés. Un périmètre a été établi à une adresse voisine à la suite de l'enquête et d'informations reçues et on a pu procéder à l'arrestation du suspect qui demeurait détenu hier en attendant d'être rencontré par les enquêteurs et il va donc comparaître là, par la suite. Incendie qui est survenu aussi, le communiqué qui est entré dans les dernières minutes, là, c'est dans le coin de Charlebourg, 1170 carré du Japs, Jaspe. Le, oui, Jaspe, c'est ça.
On n'ose plus le reprendre.
Non!
Non, mais.
Tout quand... ce que Max dit est correct.
Non, oui. Mais quand je me reprends oui. Moi-même, c'est correct.
Ah, OK, là, on peut te reprendre dans ce temps-là.
Non, non, mais personne n'a à me reprendre, je le refais tout seul.
T'as raison.
Effectivement, s'il y a quelqu'un qui peut nous reprendre, c'est bien nous-mêmes.
Oui.
L'appel initial, donc, a été reçu au 911 vers 23h35 de la part d'un voisin qui mentionnait qu'il y avait une forte odeur de fumée. Immeuble résidentiel de 12 condos. Une personne inconsciente qui a rapidement été localisée et évacuée. On lui a prodigué des manœuvres jusqu'à sa prise en charge par les paramédics. On craignait toujours pour la vie de cet homme-là dans la soixantaine d'années, là, aux dernières nouvelles. Mais pour ce qui est de l'incendie, là, vers minuit, l'extinction qui était complétée. On transmettait le code d'aggravation non probable. C'est vraiment dans la cuisine là, que le gros des flammes était concentré. Il y a 3 condos qui ont subi des dommages par le feu ou par l'eau qui ne pourront pas être réintégrés. Il y a une enquête là, en ce moment qui est menée.
Est-ce que tu as un update pour nous de la tragédie, la fusillade qui a eu lieu à Tumbler Ridge?
Oui, quelques détails qui sont arrivés hier. Là, entre autres, l'identité de la suspecte qui a été dévoilée. Il s'agit de Jessie Van Rotselaar, une femme transgenre de 18 ans. Sa mère de 39 ans et son demi-frère de 11 ans qui ont été retrouvés sans vie dans la résidence familiale. Sur les lieux de l'école secondaire, un éducateur et 5 étudiants âgés de 12 et 13 ans qui ont été tués. On connaît toujours pas les motifs de la suspecte. On sait pas non plus comment elle a obtenu les 2 armes à feu qui auraient été utilisées. Ce qui a été rapporté aussi, c'est que Jesse Van Rotselaar était connu pour des problèmes de santé mentale. Pour l'instant, c'est pas mal toutes les infos qu'on a.
Oui, puis hier matin, on se posait la question parce que l'information qui arrivait, qui n'était pas de source extrêmement crédible,
ouais.
Nous disait que c'était une personne transgenre. Donc, on était un peu hésitant en disant, hey boy, c'est la première fois qu'on voit ça au Canada, dans l'histoire du Canada, qu'une femme aurait rentré dans une école puis ouvert le feu sur des enfants. C'est la première fois qu'on voyait ça. Fait qu'on se gardait une petite gêne. Puis par la suite, une fois que les autorités disent que c'est une transgenre, on doit passer à d'autres choses.
T'sais. Exactement.
Là, moi, hier, sur les réseaux sociaux, c'était juste hallucinant. Là. Des médias tentent de nous cacher les nouvelles.
Le fesse.
Encore une personne transgenre.
Encore.
Là, j'étais là, t'as peu. Là. Qu'elle soit, moi, là, que la personne soit une femme, un homme ou une transgenre, à partir du moment où tu me dis c'est un homme, une femme ou un transgenre, mon cerveau arrête là.
Exactement.
Puis je passe à autre chose. T'sais, je vais avoir de l'opinion concernant la job des policiers.
Oui.
Est-ce qu'on a aidé les gens qui sont avec des problèmes psychologiques? politique actuellement suite à cette tragédie-là. Je passe rapidement à d'autres choses, mais hier, sur les réseaux sociaux, là, c'était encore une transgenre. Ce qui fait en sorte que j'ai été chercher les statistiques aux États-Unis parce que je me suis dit, ben, si cette bulle-là, ce qui est devenu comme une secte, là, sérieusement, là, il y a des fois qu'il y a des gens qui
doivent se poser des questions. Il doit y avoir beaucoup de transgenres qui ont fait des souris.
Je me suis dit, tous les transgenres doivent être des tueurs en série aux États-Unis. Fait que j'ai sorti les stats.
Okay? Ouais, ouais, vas-y.
97% des auteurs de tueries de masse aux États-Unis
sont transgenres.
Sont des hommes.
OK.
1,5 sont des. Excuse-moi. 2,5 sont des femmes et 0,5 sont des transgenres.
Ben là, tu me surprends parce que de l'autre bord, ils disent encore.
Je te surprends.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est des gens qui sont dans une bulle.
Ben oui, je sais.
Je veux pas, faire un code d'espèce avec ça, là, mais c'est des gens qui sont complètement dans une bulle.
Oui.
Puis si vous êtes de ces gens-là, vous n'êtes pas plus méchants que les autres. Là. C'est juste que votre algorithme vous fait croire que tout est transgenre sur la Terre, c'est tous des tueurs en série.
Exactement.
Avec des problèmes psychotiques. Puis leur rêve, c'est de vous éradiquer. Là. Sortez de ce monde-là.
Ah oui, sortez de cette bulle-là au plus pressant.
Tu sais, sortez de ce monde-là parce que vous ne serez jamais heureux.
Non.
Jamais. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont sortir les mêmes bibittes. Puis ils font leur pain puis leur beurre avec ces bibittes-là.
Oui.
Puis ils vont vous vous surstimuler avec des petites récompenses une fois de temps en temps. Regardez la transgenre, regardez la transgenre. La vérité, là, 97% des auteurs de tueries aux États-Unis, c'est des hommes. 2,5, c'est des femmes. 0,5, c'est des transgenres.
Et voilà. T'as tout dit.
Moi, je peux-tu passer à d'autres choses?
Ben oui, moi, je me questionne bien plus sur l'accompagnement qu'on va faire homme-femme transgenre. Tu sais, je voyais dans les médias là, que, malheureusement, là, l'auteur de la tuerie là, avait quitté l'école depuis 14 ans, avait des problèmes psychologiques. Donc...
À 14 ans,
ouais.
Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas été avec
C'est
eux.
Ça, à 14 ans, ça faisait 4 ans.
Fait que c'est un jeune de 18 ans qui avait
Exactement.
Des problèmes psychologiques.
Donc, quel encadrement on a fait?
Ouais.
Mais plus là-dessus qu'on va se questionner.
Le Parti libéral du Québec qui rendait public hier le rapport de l'enquête indépendante menée par l'ex-juge Fournier concernant les allégations rapportées dans le Journal de Québec sur la course à la chefferie 2025 du parti. Maître Fournier qui conclut que les fameux textos rendus publics par le bureau d'enquête du journal concernant les fameux brownies en échange de votes à la chefferie étaient un montage... Mais il peut pas le prouver. En entrevue à l'émission Le Bilan LCN hier soir, l'ex-juge Fournier qui a été honnête, il avait pas les outils. Il est allé au fond d'où il pouvait aller. Il dit « Je peux pas dire que ces textos-là sont faux. Je peux pas dire que la source a envoyé des textos qui sont faux. Je le sais pas. » Il dit « C'est difficile de faire une enquête quand t'as pas d'instrument de coercition. Si c'était une commission d'enquête, j'aurais des pouvoirs de perquisition, j'aurais des pouvoirs d'assignation. Je les ai pas. Ce que j'ai fait, c'est à l'aide de l'information qui m'était donnée. Il y a personne qui m'a appelé pour me dire « J'ai l'information pour vous. » Fait que ça, c'est ce qui ressort un peu, là, grossièrement. C'est... Il peut bien dire, ouais, je pense que peut-être. Il ne sait pas, puis il l'admet lui-même, là. L'ex-juge Fournier. Il n'y avait pas beaucoup d'outils pour mener cette enquête-là à terme. Pendant ce temps, l'éditeur du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Danny Doucet, lui, a voulu réaffirmer, maintenir à 100% tout ce qui a été publié en lien avec Pablo Rodriguez. Il a dit que tout ce qui a été publié est rigoureusement exact et réalisé selon les règles de l'art. Puis on va continuer à protéger nos sources. Il dit que l'ex-juge ne connaît pas l'identité des sources. Puis il admet lui-même, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ne pas avoir connaissance de l'ensemble des informations et textos à notre disposition. Autre couche, concernant les révélations du bureau d'enquête du journal sur l'entrepreneur qui avait versé 500$ à la campagne de Rodriguez à la demande d'un homme d'affaires laissant entendre qu'il en retirerait des avantages. Ben, Maître Fournier avance qu'une infraction à la loi électorale semble avoir été commise, mais vu que la situation fait l'objet d'une enquête, il peut pas commenter davantage. Quand en gros, ce rapport-là, ben honnêtement, là, c'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose.
Ben, moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'attitude de la presse là-dedans. Là.
Hey, hein?
En
oui.
Disant que les textos, c'était des textos bidons, ça peut pas être bidon. C'est juste que le juge qui a pris, que les libéraux payent pour enquêter, avait les mains liées, il a eu accès à des petits textos, une petite bride, puis il n'est pas capable de les faire confirmer.
Il a quasiment eu accès à exactement ce que nous, on a eu accès.
Exactement.
Ses accès, c'était de lire quasiment dans le journal comme nous autres.
Donc
là.
Lui, ce qu'il dit, c'est « j'en conclus à un montage ». mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux.
En plein ça.
Mais la presse a joué là-dessus. La presse a toujours été très libérale.
Ben oui.
Mais
ben
la
oui.
presse a joué là-dessus. Tu sais, quand je te parlais de factuel tantôt, là, quand tu mets un gros titre, là, des textos bidons, là, c'est pas ça qu'ils ont mis, là, mais qu'est-ce qu'ils ont... Qu'ils ont
ben, ils ont dit que c'est ça, que c'est un montage, mais un montage. Ça, l'ex-juge Fournier l'a expliqué hier à LCN. Lui, quand il parle de montage, lui, comment il dit... C'est factuel. C'est de dire que lui, en effet, lui, ce qu'il a eu accès à, comme nous, on a eu accès à, ben ce sont des extraits. Donc, quand on les met un à côté de l'autre, c'est en effet un montage. Lui, c'est un peu dans ce sens-là qu'il disait, puis il dit de même, c'est vrai.
Mais ouais, comment montage, la presse... Là, c'est des textos qui ont été inventés. Des textos ben qui ont été
ça,
fabriqués.
Puis ouais. C'est ça que tu comprends un peu puis du style de la presse.
Puis t'inventes la conversation.
Exactement.
Mais lui, comment il disait, c'est juste comme... Non, mais c'est juste que moi, j'ai eu accès à certains textos, puis eux, ils ont été placés dans un certain ordre. Donc, c'est un montage. Ça, c'est factuel.
Je me rallie à Éric. Bref, cette enquête payée par le Parti libéral du Québec à ce jeu, j'étais une pièce de théâtre.
Ouais, ouais. Puis oubliez pas que ça avait été commandé par Pablo Rodriguez, puis que son but, c'était de nettoyer sa réputation.
Ouais, exact.
Fait qu'on l'oublie pas, ça, là.
Puis une autre des conclusions, c'est de dire... Rien n'indique que Pablo Rodriguez était au courant. Encore là, ben, il n'y a rien qui le prouve non plus. Les taxes de la Ville de Québec sur le recyclage et l'eau risquent d'augmenter considérablement. Le maire Bruno Marchand qui a invité les commerçants à s'y préparer hier, lui qui prenait la parole devant la communauté d'affaires de Québec. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut surtout faire comprendre aux commerçants qui auront le pouvoir de limiter la hausse de leurs factures, peut-être même de la réduire selon leur gestion. S'ils font bien attention, ben, c'est pas impossible non plus qu'ils réussissent à baisser les coûts. Et pour M. Marchand, ben, le but, c'est pas d'aller chercher plus d'argent, c'est ce qu'il dit, c'est de réduire les coûts d'opération. Le maire qui déplore que seulement 31% des matières recyclables soient recyclées adéquatement. Frédéric Boisvert, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, salue la prévisibilité, le fait que le maire nous prépare à ça, même s'il attaque en tant que tel, on s'entend qu'il l'aime pas. L'opposition officielle de Respect citoyen dénonce une approche punitive et exige des explications claires. On dit qu'il serait irresponsable d'émettre une opinion définitive en raison du manque de détails.
Mais... Tu sais, je comprends l'attitude de Fred Boisvert là-dedans, là, mais je le trouve beaucoup trop doux là-dedans. Le maire Marchand, c'est un maire qui est idéaliste, interventionniste. Puis ce qu'il dit, c'est que si les entreprises, au niveau du recyclage et au niveau de l'eau, ne se gèrent pas, ben, on va leur charger plus cher.
Ouais.
Parfait. Parce qu'on nous dit que traiter tout ça au centre de recyclage, ça coûte cher. Les gens qui travaillent au centre de recyclage, là, c'est qui? C'est des gens qui sont pratiquement au salaire minimum. C'est des programmes gouvernementaux, des gens qui, normalement, pourraient pas être embauchés dans des entreprises privées, qu'on embauche avec des subventions pour les faire travailler là. Puis c'est tout du monde extrêmement courageux, puis ils font tout leur possible pour faire ce recyclage-là. Parfait. Ce qu'ils devraient faire, le maire Marchand, puis c'est ce qui ne l'intéresse pas du tout, c'est... Savez-vous quoi, les citoyens? Si on fait des efforts, l'année prochaine, je vais baisser
Exactement.
Vos taxes municipales.
Pas je vais augmenter.
Savez-vous quoi, les commerçants? Si on fait des efforts, l'année prochaine, ça va être moins compliqué parce que on va avoir moins de jobs pour ce qui est du recyclage. Fait que je vais baisser vos taxes
Exactement.
Commerciales. Mais lui, il n'est pas comme ça. Je te garantis qu'en 2027, ça va être ça. Tout va être augmenté. Ils sont en train de surveiller vos poubelles résidentielles. Ils sont en train de surveiller votre recyclage résidentiel. Ils sont en train de surveiller vos poubelles commerciales. Ils sont en train de surveiller vos poubelles, votre recyclage commercial. Nécessairement, il s'est prévu que le prochain compte de taxes qui va arriver, quand il va prendre sa décision, bien entendu, ça va tout être une augmentation. Puis ils vont dire quoi? Ben, c'est de la faute des résidents qui ne trient pas assez leurs affaires. C'est la faute des commerçants qui ne trient pas assez leurs affaires.
Je suis tellement d'accord. Puis ça va être une mauvaise nouvelle passée dans quoi? Dans les deux premières années du mandat de 4 ans, parce qu'après ça, on va redonner des bonbons.
Exactement.
C'est de la vieille politique.
C'est de la politicoirie. Ce que je trouve tannant, c'est l'attitude des gens qui sont autour, qui, exemple, des commerçants, des restaurateurs qui subissent constamment tout ça puis qui se plaignent pas.
Ouais,
sortez dans la rue puis dénoncez les propos du
ben
maire.
Oui.
S'il vous promet de baisser les taxes parce que vous vous améliorez au niveau des poubelles puis du recyclage, je trouve ça très honnête de sa part.
Vraiment.
Mais s'il vous dit, regardez, pour un peu plus de prévisibilité, je vous préviens, si ça continue comme ça, les taxes vont augmenter. C'est parce qu'il a l'intention de
les
augmenter.
Ben oui, il veut les augmenter. Hey, il s'est fait ovationner hier après son discours, puis il aurait dit « je vais vous mettre des taxes de plus ». Moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais dit « ah ouais, tu veux jouer à ça? Parfait. M'a collé une enquête indépendante, moi, m'a allé voir comment tu recycles puis comment tu traites tes eaux usées dans tes buildings de la ville. On fait un comparable pour voir.
Très bon point.
Je termine avec ça. La Chambre des représentants aux États-Unis qui a voté hier en faveur d'un projet de loi visant à mettre fin aux tarifs imposés au Canada. Dur coup pour Donald Trump, considérant que la Chambre est à majorité républicaine. Ça veut dire qu'il y a des républicains, 6 pour être exact, qui ont joint leur voix aux démocrates pour aller chercher la majorité puis faire passer cette motion-là. L'affaire, c'est qu'il aurait fallu le 2/3 des votes de la Chambre pour que la motion soit, adoptée, mais aussi protégée d'un veto de Donald Trump. Ça, on ne l'a pas atteint. La résolution qui va aussi devoir passer par le Sénat avant d'être transférée à Trump. Fait que, tu sais, ça, c'est plus un message qu'on passe qu'autre chose, là, que, tu sais, il n'y a rien de vraiment concret là-dedans. C'est peut-être un petit peu de pression sur Trump, mais je pense pas qu'il va ne pas endormir la nuit. Par contre, il a quand même réagi rapidement sur Truth Social, là, en disant « Le Canada profite des États-Unis en matière de commerce depuis des années. Ils sont parmi les pires partenaires commerciaux au monde, surtout en ce qui concerne notre frontière nord. Les tarifs douaniers sont un gage de réussite pour nous et c'est facile. Les républicains doivent maintenir cette situation. »
6h40. 3, les sports.
Les sports. 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 Les sports.
Entrée en scène aujourd'hui pour l'équipe canadienne masculine de hockey, les Canadiens qui affrontent les Tchèques dès 10h40 ce matin. En attendant, depuis quelques minutes, la France et la Suisse s'affrontent. Hier, la Slovaquie qui a causé la surprise avec une victoire de 4-1 sur la Finlande grâce à toute une performance de Juraj Slafkovský qui a inscrit 2 buts. Et l'Italie qui a surpris aussi en tenant tête à la Suède grâce au gardien Damian Clara qui a été sensationnel jusqu'à ce qu'ils doivent quitter le match blessé en 3e alors que la marque était de 3-2. La Suède qui a finalement gagné 5-2. Chez les femmes, Canada-Finlande ce matin dès 8h30. Le Canada qui a mis la main aussi hier sur sa quatrième médaille des Olympiques grâce à Piper Gillis et Paul Poirier qui ont remporté la médaille de bronze en danse sur glace à surveiller aujourd'hui. Présentement, finale en ski acrobatique boss. Évidemment qu'on surveille Michael Kingsbury. Surf des neiges cross à 7h45. Elliot Grondin à surveiller. Patinage de vitesse 500 mètres féminin cet après-midi. 3 noms qu'on surveille, Kim Boutin, Courtney Sarrault et Florence Brunel. Patinage de vitesse 1000 mètres hommes cet après-midi aussi. William Dangino qui a des bonnes chances de médaille et Félix Roussel qui tentera de causer une surprise. Et aussi cet après-midi, surf des neiges finale de demi-lune chez les femmes avec la Québécoise Elizabeth Hosking qui tentera de sauver avec une médaille. Plusieurs opportunités de médaille pour le Canada aujourd'hui.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation ou nous transmettre de l'information, par téléphone.